VOA, les infos. À Washington, Henri Francisque.
13h à Bamako, 14h à Bangui, bienvenue à notre journal. En Centrafrique, 29 candidats participeront à l'élection présidentielle dont le premier tour est prévu le 27 décembre. C'est ce que la Cour constitutionnelle centrafricaine vient d'annoncer aujourd'hui à Bangui. Parmi les 15 candidatures rejetées, celle de l'ex-président François Bozizé, renversé en 2013 et sous le coup de sanctions internationales. La liste des candidats approuvés inclut des politiciens très connus comme Martin Ziguélé, ancien premier ministre du président Ange-Félix Patassé, Georges Dologuélé ou encore Karim Mekassoua. On est en RCA pour parler des centaines de musulmans évacués du quartier PK12 de Bangui au plus fort du conflit et qui veulent maintenant rentrer chez eux. Leur maison a été occupée par des intrus qui refusent de vider les lieux, comme nous le rapporte Chris Stein, envoyé spécial dans la capitale centrafricaine. Les grandes lignes de son reportage avec Michel Joseph.
En avril 2014, le convoi de camions évacuant les musulmans venait à peine de quitter le quartier PK12 que des pilleurs ont investi les lieux, emportant tout ce qu'ils pouvaient trouver. La mosquée centrale PK12 a été détruite jusqu'à sa fondation dans une campagne de violence lancée par les milices anti-Balaka. Ces derniers accusaient les musulmans de la zone de soutenir les rebelles Séléka, pris le pouvoir au début de 2013. Le conflit qui s'est généralisé a fait des milliers de morts et de déplacés, chrétiens comme musulmans. Jekamba a emménagé dans une maison du PK12 qui appartient à des musulmans.
Ça, là, la maison où j'habite là actuellement, là, ça c'est pas pour les gens. Ça c'est pour un chrétien, c'est pour un national centrafricain. Donc même si les musulmans viennent, moi je ne peux pas accepter que eux, les musulmans, reviennent dans la maison.
Mathieu Rabjo, lui, a fui le PK12 vers la fin 2013, au plus fort des affrontements intercommunautaires. Il dit n'avoir pas oublié sa maison dans son ancien quartier à Bangui.
Notre maison a été détruite. Mais lorsque la paix reviendra, nous retournerons avec les papiers légaux prouvant que c'est notre terrain.
Pour parvenir à une paix durable, les autorités devront avant tout déterminer qui est propriétaire de quoi, estime John Spedno, chercheur à Amnesty International.
La question de la propriété foncière est cruciale pour l'avenir de ce pays, car si vous n'êtes pas à même de mettre en place les mécanismes nécessaires pour régler les problèmes à court de déplacés, alors vous vous retrouverez avec des querelles de terre pouvant aisément se transformer en confrontation entre communautés.
Pour l'heure, la paix se fait attendre alors que les assassinats se poursuivent à Bangui et dans d'autres villes du pays.
Crise au sein des écoles relevant des églises catholiques au Cameroun. Des enseignants s'organisent pour dénoncer leurs conditions salariales notamment. Les élèves en font les frais avec des cours momentanément suspendus. De Douala, le reportage de notre correspondante Sandrine Yamda.
Le malaise est bien présent dans les écoles catholiques du Cameroun.
Les salaires d'avion, quand le collège était à 5 000, c'est ça que nous avons presque aujourd'hui où le collège est à 40 000, 60 000.
50 000 francs à Douala, vous devez payer le loyer. Vous devez payer la santé, vous devez payer l'éducation des enfants. Vous croyez vous-même à notre place que nous allons faire comment? C'est pour cette raison que nous sommes venus aujourd'hui passivement montrer à notre employeur que nous sommes mécontents.
Conséquence, les cours ont été interrompus durant plusieurs jours, obligeant les parents à se joindre au mouvement.
Nos enfants portent les maladies dans les toilettes. On nous exige à nous le matériel pour entretenir les toilettes. Ils ont pris cet argent pour construire les toilettes payantes. Vous savez que pourquoi nos enfants aillent là-bas, là où c'est propre? Il faut payer.
Plus de 10 ans que les enseignants des écoles catholiques rient leur misère. Un fait connu de leurs défenseurs. Luc Nyomok est le président du syndicat des enseignants catholiques.
Parce que cette fois, je crois que le syndicat devra prendre ses responsabilités si on observe encore un certain dilatoire.
Les autorités administratives se sont penchées sur la situation. L'Église catholique s'est donc engagée à revoir les conditions de travail de ses employés. Monseigneur Dieudonné Bahimek est le vicaire général de l'archidiocèse de Douala.
Non, l'archevêque a accepté la médecine de travail. Il mettra à la disposition des enseignants auprès de l'inspection un médecin pour consultation gratuite. Il y a la prime d'ancienneté qui sera calculée et applicable à partir de janvier.
L'école a repris le spectre du soulèvement ou des manifestations semble ne pas être très éloigné. Et de Sandrine Yamga, Douala Cameroun, pour Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Côte d'Ivoire, le second mandat du président ivoirien Alassane Ouattara, réélu dès le premier tour de la présidentielle fin octobre, doit privilégier le règlement des profonds défis relatifs aux humains pour éviter que la lutte pour sa succession ne replonge la Côte d'Ivoire dans des violences. Une mise en garde lancée aujourd'hui par Human Rights Watch, organisation de défense des droits humains à New York. Jacques Aristide nous en dit plus.
Si Ouattara omet de s'attaquer aux défis relatifs aux droits humains qu'il n'a pas réglés durant son premier mandat, la lutte pour sa succession pourrait encore une fois menacer la paix sur laquelle prit le rétablissement de la Côte d'Ivoire, déclare Human Rights Watch dans son dernier rapport. Début novembre, Alassane Ouattara, réélu dès le premier tour de la présidence du 25 octobre, a été solennellement investi président de la Côte d'Ivoire pour un mandat de 5 ans. Bien que le président Ouattara ait réussi à éloigner progressivement la Côte d'Ivoire de son douloureux passé, le chemin vers le redressement du pays est en cours, a prévenu Jim Warmington, chercheur à Human Rights Watch, dans ce document intitulé « Consolider cette paix qui nous appartient, un agenda relatif aux droits humains pour la Côte d'Ivoire ». Le gouvernement a refusé de publier le rapport final de la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation mise en place par Ouattara 11 et qui avait pour but d'aider à empêcher de futures exactions, souligne l'ONG. En Côte d'Ivoire, l'opposition est et la société civile accuse la justice de ne s'adresser qu'au du camp Gbagbo.
Nigeria, on s'achemine vers la fin de l'ultimatum du président Muhammadu Buhari à ses généraux pour finir avec l'insurrection de Boko Haram d'ici la fin de l'année. Mais les attaques du groupe islamiste et la coalition militaire régionale chargée de le combattre peinent à se mettre en place. Jean-Roger Bion.
Oui, Muhammadu Buhari avait donné le dernier à l'armée jusqu'à fin décembre pour accomplir sa promesse. En vain, comme un défi lancé au nouveau président, les attaques ont redoublé de violence et les attentats suicides se sont multipliés dans tout le nord du Nigeria, faisant 1500 morts depuis l'investiture de M. Buhari à la fin du mois de mai. L'armée, qui semblait en déroute en 2014, a quand même regagné du terrain et annonce régulièrement des succès. Elle a entamé des opérations en profondeur pour traquer les insurgés dans la forêt de Sambisa, dans l'état de Borno, un de leurs bastions. Mais les militants islamistes ont bougé vers les îles du lac Tchad, plus au nord selon des analystes. La police secrète a de son côté annoncé samedi qu'elle avait démasqué ces dernières semaines des cellules dormantes de Boko Haram dans la capitale Abuja et a arrêté 12 personnes. Un succès certes, mais pas forcément rassurant.
Les défis de la Tunisie maintenant, alors que le prix Nobel de la paix sera remis jeudi à un groupe d'organisations ayant cimenté la transition démocratique dans le pays, la Tunisie est aujourd'hui plongée dans l'état d'urgence, preuve de sa vulnérabilité face à la menace djihadiste. Anne Albertson.
Après l'attentat suicide contre un autobus de la sécurité présidentielle qui a fait 12 morts le 24 novembre, les autorités ont instauré un couvre-feu nocturne à Tunis, fermé temporairement la frontière avec la Libye et pour la deuxième fois cette année, instauré l'état d'urgence. De quoi rappeler crûment la fragilité du processus de démocratisation que le Nobel couronne cette année. En attribuant la prestigieuse récompense au Quartet pour le dialogue national, le comité Nobel norvégien a pourtant tenu à ériger la Tunisie en modèle de réussite du printemps arabe, dont elle est d'ailleurs le berceau. En 2013, à un moment délicat de l'histoire du pays, les organisations qui forment ce quartet, le puissant syndicat UGTT, l'organisation patronale Utica, la Ligue tunisienne des droits de l'homme et l'Ordre des avocats, avaient aidé à résoudre la crise politique née des blocages entre le parti islamiste Ennahda et ses opposants.
Actualité aux États-Unis, la proposition du milliardaire américain Donald Trump, qui brigue l'investiture républicaine comme candidat à la présidence, d'interdire l'entrée des musulmans aux États-Unis est raciste et ne fait qu'attiser les tensions entre les communautés américaines. C'est ce qu'a jugé aujourd'hui la plus haute autorité religieuse d'Égypte. Donald Trump, qui est en tête des sondages des primaires républicaines pour la Maison-Blanche en 2016, a appelé à barrer l'entrée des musulmans aux États-Unis. Proposition applaudie par ses partisans, mais condamnée à droite comme à gauche. L'administration Obama a dénoncé la gestion en la qualifiant de contraire aux valeurs américaines. Et pour terminer, la Chine envisage de construire sa première base militaire à l'étranger et c'est le continent africain qui va l'abriter. La base sera construite à Djibouti, à l'entrée du détroit de Bab el-Mandeb, sur la mer Rouge. Merci de votre attention.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.